questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Cette semaine, nous allons évoquer la douleur. A eu lieu lundi 17 octobre, la journée mondiale de la douleur. Une personne sur cinq souffre de douleurs chroniques modérées à fortes. Et puis, la douleur rend une personne sur trois incapable ou difficilement capable de mener une vie indépendante. La douleur est une problématique fréquente chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs. En effet, Alzheimer peut affecter la capacité de communiquer d'une personne et donc savoir si un proche atteint ressent de la douleur peut s'avérer difficile. Pour parler de cette thématique, nous sommes aujourd'hui avec Suzanne Horn qui est psychologue. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Également avec nous, Serge Dalmas, médecin à l'hôpital Jeanne de Flandre du CHU de Lille et président du comité de lutte contre la douleur. Bonjour Serge.
Oui, bonjour.
Et merci à tous les deux d'être avec nous. Alors première question Serge Dalmas, je viens d'évoquer des chiffres assez parlants sur la douleur, il ne faut pas la négliger, d'où une journée mondiale. Pourquoi c'est important d'en parler ?
Si on parle de la douleur, alors il y a différents types de douleurs. Il y a la douleur aiguë que nous on connaît bien, donc notamment en anesthésie réanimation et qu'on prend en charge lors des interventions chirurgicales et en périopératoire. Et puis il y a toute la douleur prolongée, douleur chronique, qui est souvent liée à des affections particulières. On connaît bien tous les problèmes liés aux douleurs en rhumatologie en particulier. Et puis il y a aussi les douleurs des pathologies plus graves comme les cancers ou alors des maladies chroniques, des maladies neurologiques qui peuvent être aussi pourvoyeuses de douleurs. Alors c'est vrai que ce ne sont pas des douleurs faciles à prendre en charge. Et donc, on travaille beaucoup, notamment maintenant avec les jeunes médecins, à la formation des jeunes médecins pour que la douleur soit mieux connue, les méthodes de traitement soient mieux connues, pour que les médecins soient armés pour faire face à ces problèmes de douleur.
Suzanne, il y a aussi un autre sujet, c'est l'atteinte psychologique que la douleur procure.
Ben oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on parle de douleur, certains parlent de douleur physique versus douleur psychique. Mais on quitte un petit peu cette opposition-là en parlant de la souffrance, sachant que la souffrance, c'est un concept plus global qui concerne à la fois une douleur psychique et physique, et les deux vont de pair, de toute façon. Le cerveau ne fait pas vraiment la différence, il réagit de façon très similaire entre un sentiment d'exclusion, par exemple, et une douleur où on nous aurait tapé dessus, on aurait eu un bleu, une brûlure, ou autre chose de ce genre. Il y a pas mal de recherches faites sur ce phénomène. Donc on revient un petit peu sur cette séparation entre douleur physique et psychique qui vont de pair, et l'un ne va pas sans l'autre, en général.
Comment la douleur est-elle perçue quand on souffre de troubles cognitifs, et notamment de la maladie d'Alzheimer, Serge Dalmas ?
C'est forcément plus compliqué que pour les personnes qui peuvent s'exprimer et qui ont toutes leurs facultés d'expression. Et c'est pour ça que nous, au niveau médical, on a des méthodes particulières, des scores particuliers qui nous permettent d'apprécier et d'évaluer la douleur des personnes qui ont des difficultés de communication, ce qu'on appelle des échelles comportementales, qui sont spécifiques des personnes qui ont des difficultés de communication. Mais c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus difficile d'évaluer la douleur d'une personne qui a des difficultés d'expression. On sait très bien du tout que la douleur, c'est un problème privé, en fait. Et la meilleure façon d'évaluer la douleur, c'est de demander au patient d'en chiffrer, on va dire, l'intensité et puis le ressenti. Mais c'est vrai que dans les pathologies où les troubles cognitifs sont présents, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça demande une observation et ça demande l'utilisation d'échelles particulières.
Vous voulez rajouter quelque chose, Suzanne ?
Les personnes qui perdent la capacité de communiquer en début de maladie, je pense qu'il faut vraiment aussi faire la différence entre le début de la maladie, le milieu de la maladie, et dans un stade très avancé plus tard dans la maladie, où les capacités pour communiquer, notamment communiquer sa douleur, ne sont pas les mêmes. Dans un cas, la personne va pouvoir effectivement dire « j'ai mal là », et ça ressemble à telle sensation. J'ai l'impression d'un couteau dans le genou, j'ai l'impression d'avoir un torse au dos. Enfin, elle va pouvoir nommer au début, comme toutes les autres personnes. Et au fur et à mesure que la maladie évolue, cette capacité de nommer va se réduire et l'expression va devenir de plus en plus non-verbale. notamment émotionnelle, hein, avec tristesse. Et au fur et à mesure que la maladie avance, la personne va perdre cette capacité non seulement de nommer sa douleur, mais peut-être même de l'identifier, de le localiser sur son corps. On peut parler des difficultés de représentation de corps, des difficultés de schéma corporel notamment. Et ça peut donner des réactions assez paradoxales parfois. Je me souviens de cette dame qui d'habitude était de bonne humeur. Elle parlait très peu, mais elle déambulait dans les couloirs de l'établissement où elle vivait. Plutôt joviale et contente de communiquer avec les moyens qui étaient les siens. Un jour, on la voit avec des signes soucieux au visage, le fameux oméga au front, entre les yeux, et en marchant de plus en plus vite jusqu'à l'épuisement. Lors du repas de midi, elle a quasiment rien mangé, et après le repas, elle était tellement épuisée qu'on lui a proposé de faire une sieste après le repas, chose qu'elle ne faisait pas d'habitude. Et en enlevant les chaussures de cette dame, on découvre un grand caillou qui avait creusé un trou au niveau de son talon, enfin qui avait vraiment créé un vrai blessure. Et donc on voit bien cette dame-là, elle a bien dû éprouver l'inconfort et même la douleur, mais peut-être ne savait-elle pas le localiser à son pied et adapter la stratégie la plus logique qui serait de s'asseoir sur une chaise et d'enlever sa chaussure et le caillou qui était à l'intérieur. À la place de ça, elle, sa réaction, ça a été de soulever son pied le plus rapidement possible. Et du coup, le résultat du coup, c'est qu'elle marchait de plus en plus vite. Donc, on peut voir ce genre de réaction qui peut nous paraître au prime abord un peu paradoxale, mais quand on comprend un peu les mécanismes et les sensations pour la personne, on se dit, ouais, il y a tout de même une logique là-dedans. Donc, il s'agit d'être attentif au changement. Et ce changement-là, ça va se manifester sous forme d'un inconfort, des traits au visage, peut-être une posture antalgique, mais parfois aussi, comme dans le cas de cette dame, des mouvements et des réactions qui peuvent presque paraître paradoxales par rapport à l'endroit où se trouve la douleur.
Alors, avec ce que vient de décrire Suzanne, Serge, pouvez-vous nous expliquer comment médicalement on peut évaluer la douleur d'une personne qui ne peut pas s'exprimer ? Comment on procède exactement ?
C'est le comportement de tous les jours. Ce qui se passe souvent, ce sont des changements de comportement, ce sont des réductions d'activité notamment. C'est ce qu'on voit essentiellement chez la personne âgée. Bon, la maladie d'Alzheimer, c'est pas forcément lié à l'âge, bien sûr, mais ce sont des choses qu'on voit chez les personnes globalement non communicantes. C'est des modifications d'activité, des modifications d'humeur aussi qui peuvent être liées à des phénomènes douloureux. Et on sait quand même parfois, il faut faire ce qu'on appelle des tests thérapeutiques et on se rend compte que si on a un doute sur des problèmes de douleur chez les personnes qui ont des difficultés d'expression, le fait de mettre en route un traitement antalgique, parfois, le résultat sur le comportement de la personne, sa facilité, par exemple, à se déplacer, à faire des mouvements, et l'amélioration de ce comportement, après la mise en route d'un traitement antalgique, peut être le signe d'une douleur, parce que c'est pas toujours facile de l'évaluer en tant que tel.
Donc on comprend qu'il faut être extrêmement attentif finalement quand son proche est atteint de la maladie.
Oui, tout à fait. Plus la maladie évolue, plus tous ces signes et toutes ces réactions vont prendre une forme non verbale, notamment l'expression du visage, la posture, etc. Et il y a des grilles d'évaluation de douleur qui existent pour les professionnels. Et on appelle ça des hétéro-évaluations parce qu'on évalue l'autre. Il ne s'agit pas de la personne elle-même qui évalue sa douleur. C'est un observateur ou un accompagnant, ça peut être la famille, qui observe la personne potentiellement douloureuse et qui repère certains signes. Ce grille de l'O+, on peut le télécharger sur Internet si on veut avoir quelques indices.
Serge Dalmas, dans la maladie d'Alzheimer, on le sait, hein, un des premiers symptômes, c'est la perte de mémoire. Comment gérer la douleur dans ce contexte-là, quand la personne, finalement, ne sait pas qu'elle souffre, ou ce qu'est la souffrance, puisqu'elle l'a oublié ? C'est aussi très difficile pour les aidants, ça.
Je dirais encore une fois, la maladie d'Alzheimer, c'est pas superposable à l'âge, forcément. Mais c'est vrai qu'on sait que chez les personnes âgées, notamment, c'est le moment de la toilette qui est un moment d'évaluation important, notamment dans les structures de soins pour les personnes âgées. On sait très bien que l'évaluation de la douleur se fait au moment de la toilette, au moment où on mobilise la personne, et on voit éventuellement qu'on a des réactions de retrait ou de, on voit que des symptômes, par exemple, de crispation du visage au moment de la mobilisation, peut révéler certaines douleurs, parce que certaines douleurs sont augmentées lors de la mobilisation. Et vous avez certaines échelles qu'on utilise notamment, donc ce qu'on appelle donc les échelles, encore une fois, de comportement, échelle comportementale, où vous avez des chapitres d'évaluation avant la toilette, pendant la toilette, où on voit à ce moment-là certains signes qui apparaissent, de raideur par exemple, de crispation du visage à la mobilisation, qui sont des éléments qui vont augmenter le score de l'échelle. Hein. Ce sont des échelles avec des items, et puis une certaine intensité qui est scorée en chiffres. Et puis quand on fait un total, ça nous donne une évaluation globale de la douleur de la personne. Mais effectivement, donc tous les aidants et les personnes notamment qui font des soins et qui sont amenés à mobiliser la personne peuvent s'aider donc de ces instants de mobilisation pour évaluer s'il y a une douleur ou pas. Parce qu'en général, les douleurs, quand elles existent, eh bien, elles s'intensifient lors de la mobilisation.
Suzanne, est-ce que la prise en charge avec un psychologue est nécessaire quand on a la maladie d'Alzheimer et qu'en plus on a des douleurs qui sont difficiles à exprimer ?
Tout dépend de l'origine de la douleur. Si c'est une douleur qui se base peut-être dans un mal-être hein, par rapport à la maladie, en début de maladie, qui est en lien avec un syndrome dépressif, oui, un accompagnement par un psychologue peut être très utile. Mais si la douleur est d'origine physiologique, je pense qu'il faut d'abord aller à la cause corporelle quelque part et tenter de repérer où se trouve cette douleur et est-ce qu'on peut soit en guérir la cause, c'est ce qui est le mieux, ou bien adopter quelques méthodes antalgiques qui permet à la personne de ne pas se focaliser uniquement sur cette sensation douloureuse, mais aussi se tourner vers autre chose. Souvent, dans mon expérience, en tout cas, j'ai l'impression que c'est aussi la famille qui a besoin de soutien psychologique dans ces situations-là. La personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer, plus elle évolue dans la maladie, moins l'accompagnement va se faire par la parole et par l'expression verbale, mais ça va être plutôt du être avec la personne, ce lien profond d'affection. Et la famille est en première ligne pour faire ça. En revanche, c'est pas évident de tenir cette posture, c'est pas facile de voir son proche souffrir ou se dégrader. Et du coup, pour tenir cette posture-là, la famille a souvent besoin de soutien, de quelques billes, quelques éléments de compréhension pour ne pas se sentir en échec.
Dernière question, Suzanne, est-ce que vous avez un conseil à donner aux aidants qui nous écoutent et qui ne savent pas encore comment agir face à leurs proches qui souffrent peut-être et qui sont donc dans le flou ?
Je recommande, enfin, pas seulement moi, si je les recommande, c'est parce que les aidants me disent que ça les a beaucoup aidés. Les actions auprès de France Alzheimer qui sont mises en place tout près de chez eux dans les associations départementales. Il y a des groupes de parole pour en discuter avec d'autres. Beaucoup de familles me disent que c'est soutenant, que ça les aide à franchir le pas de peut-être prendre un rendez-vous médical ou autre, ou aller engager d'autres activités avec leurs proches malades. La formation aux aidants, c'est aussi quelque chose qui me paraît vraiment un outil très bénéfique pour les familles. On dispense aussi des entretiens individuels, nombre limité, hein, mais quelques-uns par an par aidant pour des problématiques plus individuelles et personnelles. Et puis, chercher à communiquer avec les autres membres de la famille qui peuvent être soutenants, mais qui sont parfois loin et qui ne comprennent pas toujours le vécu quotidien de l'aidant principal qui peut se trouver épuisé. Pas hésiter à parler avec les professionnels, les médecins, si vous avez une suspicion ou vous pensez que votre proche souffre physiquement ou plus psychologiquement hein, par une dépression, une douleur morale, un sentiment d'être exclu, etc. N'hésitez pas à contacter le médecin, en parler avec le médecin, des signes concrets qui sont alarmantes. Pourquoi pas échanger avec les psychologues au sein de France Alzheimer autour des signaux de frustration, d'énervement ou de repli sur soi qu'on peut aussi constater plus au niveau comportemental.
les uns et les autres sont souvent liés, hein, entre souffrance physique et souffrance psychologique, ils sont souvent étroitement liés.
Merci beaucoup Suzanne Horn de nous avoir répondu.
Mais merci à vous.
Merci aussi à vous Serge Delmas de nous avoir accompagnés.
Mais je vous en prie.
Et merci aussi à vous chers auditeurs. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Continuez de nous écouter, nous écrire. Vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio. www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.